FM. Activez vos synapses. La porte du Labo des Savoirs et entrer dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
C'est le retour en France du grand méchant loup. Méthodiquement éradiqué au cours du 19e siècle, il finit par devenir espèce protégée au 20e. Trop tard pour le loup français, mais pas pour les survivants italiens qui reviennent pointer leur museau dans l'hexagone à partir des années 90. Et ce, jusqu'en Bretagne, où ils ont été observés en 2022. Bonne nouvelle pour l'espèce, mauvaise pour l'homme, car l'imaginaire reste sombre autour de ce prédateur. Méchant des contes pour enfants, alors qui a peur du grand méchant loup breton ? Et pour parler du loup, de son imaginaire, de l'état actuel de la gestion du carnivore en Bretagne et en France, nous recevons Élodie Serrano, ex-doctorante vétérinaire, reconvertie en romancière et novelliste, toujours passionnée par le vivant. Elle est l'autrice de la thèse « Le loup dans les littératures de l'imaginaire, quelle image ?» et reviendra avec nous sur les idées fausses et la mauvaise représentation de notre lointain cousin du chien. Avec nous également deux membres de l'association Férus, la première association nationale de protection et de conservation des grands carnivores comme l'ours, le loup et le lynx en France. Agathe Lefranc du réseau Finistère et Tanguy Descamps du réseau Breton seront avec nous. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Nous sommes avec Élodie Serrano à distance. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Vous êtes autrice de science-fiction, donc une spécialiste de l'imaginaire, ça tombe bien, on va en parler. Mais avant, vous avez fait des études vétérinaires et vous avez écrit une thèse sur le loup, qui est donc le sujet qui nous intéresse, ou plus précisément le loup dans les littératures de l'imaginaire, quelle image. Alors on va en parler de la présence du loup dans notre imaginaire, dans notre culture, dans nos fables, mais avant on va profiter de votre parcours vétérinaire pour revenir sur quelques bases, la différence qu'il y a déjà entre le loup et le chien. C'est quoi ? Est-ce que c'est des cousins éloignés ? Est-ce que c'est facile de les différencier physiquement ?
Physiquement, c'est un peu le grand écart, parce qu'on prend certaines races de chiens, on ne se pose pas trop la question. C'est sûr qu'un chihuahua et un loup, on ne peut pas trop se poser la question. Après, c'est vrai qu'on a des races qui vont être physiquement assez similaires. Voilà, les gens vont connaître bien évidemment tout ce qui va être husky, sibérien ou malamute, qui peuvent avoir un côté... semblable au loup, mais souvent plus petit quand même. On a aussi une race qui est peu connue, qui est le chien loup tchécoslovaque, qui n'est pas un croisement avec le loup récent, mais qui sont des chiens très proches du loup aussi au niveau du comportement, et qui ont vraiment une tête de loup. Voilà, donc au niveau physique, c'est au niveau phylogénie, le loup et le chien effectivement sont cousins. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire le loup est l'ancêtre du chien. C'est comme les arbres généalogiques évolutifs de l'homme. En fait, on est cousin avec les primates parce qu'on a un ancêtre commun. Les chiens et les loups actuels sont cousins avec le chien parce qu'il y a un ancêtre commun du loup qui a été... C'est un des premiers animaux, si ce n'est pas le premier animal qui a été domestiqué par l'espèce humaine il y a très 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 longtemps. Donc il y a eu beaucoup de divergences évolutives. entre le chien et le loup. Mais après, voilà, on est vraiment sûr. Ça dépend avec quel loup aussi, parce qu'on a différentes sous-espèces de loups. Typiquement, en taille, on a certaines espèces de loups qui sont vraiment très massives. Donc là, la question se pose pas, si, même si on le met à côté d'un malamute. Ça se trouve assez facilement sur Internet, hein, des photos de malamute ou de husky au milieu d'une meute de loups. Et la question se pose pas de lequel est le chien et lesquels sont les loups. Mais on va avoir des loups qui sont peut-être... plus petits aussi, qui sont moins intimidants, on va dire. Notamment si on a les loups rouges au Mexique, par exemple, qui sont peut-être plus petits, moins touffus, moins épais aussi, parce qu'ils sont plus adaptés à la chaleur. Donc, c'est pas une réponse absolue. Mais comme on est sur des espèces, que ce soit le chien ou le loup, qui ont quand même une grande variété de types physiques aussi, même si le loup, c'est moins évident que le chien, c'est pas... Oui et non.
J'allais justement demander, là, nous, on est entouré par des pays, l'Espagne et l'Italie notamment, qui ont des loups depuis plus longtemps que nous. Enfin, sachant que nous, en fait, ils ont disparu pendant un moment, puisqu'on les a beaucoup chassés, on va y revenir. Est-ce que le loup italien et le loup espagnol, c'est le même que le loup français ?
Alors, le loup italien, c'est le même que le loup français, parce que le loup français arrive d'Italie. Le loup français arrive d'Italie, donc par contre, effectivement, le loup espagnol, a priori, n'a pas encore trop passé la barrière des Pyrénées. C'est plutôt des loups italiens qui reviennent en France. Après, je pense que si on pousse dans la génétique, il y a de bonnes chances que le loup espagnol et le loup italien de loin se ressemblent, parce qu'ils sont dans les mêmes zones géographiques, dans les mêmes niches écologiques, donc il n'y a pas de raison excessive qu'ils aient énormément divergé l'un de l'autre. Mais après, je pense que si on avait creusé un peu dans leur génome, on verrait probablement des différences du fait que ce sont des populations qui sont isolées l'une de l'autre, en fait. D'un point de vue génétique, quand on isole une population, elle va évoluer un peu dans son coin. On le voit avec des populations d'oiseaux, par exemple, qui sont isolées sur certaines îles. Donc le loup, c'est pareil. Donc le loup espagnol et le loup italien vont être un petit peu différents génétiquement. Si on croise un loup espagnol, on ne va pas dire « Ah, il est espagnol, lui !» Pas à ce point-là, mais... Non, le loup français, du coup, on les a tous tués, en fait. Hein. Ceux qui vivaient en France à l'époque, on les a tous tués. Donc, il n'y avait plus de loups en France pendant très longtemps. Donc, les loups français sont des loups italiens qui ont traversé les Alpes et qui sont venus s'installer en France, en fait.
Oui, puisque ce que vous disiez, c'est qu'on les a tous tués, c'est sûr. Ils ont disparu au XXe siècle, alors qu'ils étaient là depuis très très longtemps. Vers 1930, mais les dates ne sont pas tout à fait exactes, je crois. Donc depuis quasiment 100 ans, ils ne sont plus sur notre territoire. Et là, en fait, ils reviennent. Est-ce que c'est des loups italiens qui sont partis en éclaireur ? Est-ce que c'est l'homme qui les a remis dans nos montagnes ? Comment ça s'est passé, ce retour du loup ?
C'est vrai que c'est un fantasme qu'on entend régulièrement. C'est des écologistes un peu illuminés qui ont... réintroduit le loup de force en France, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que le loup, c'est un très grand marcheur. Et donc la structure d'une meute de loup, c'est une structure familiale. On a les parents, les petits de l'année, des années précédentes. Cette structure, elle est à peu près équilibrée jusqu'au moment où les ressources vont peut-être venir à manquer pour cette meute. Et à ce moment-là, on a des jeunes qui vont partir de la meute pour créer, se trouver un nouveau territoire, se créer une nouvelle meute. Donc il va y avoir deux modalités, soit le territoire où la meute vit, il n'y a pas trop de meute de loup autour, et le jeune loup a moyen de se tailler son propre territoire, en fait, localement. Donc, le loup va rester assez localement parce qu'il va créer son territoire là. Alors, comment un territoire de loup, ça se définit, hein? Tout simplement, c'est la zone géographique qui suffit à le nourrir et à nourrir sa meute. Donc, des fois, il y a des territoires qui peuvent être petits parce qu'il y a ce qu'il faut. Et des fois, il y a des territoires qui vont être vraiment très, très étendus dans des zones où il peut y avoir peu de gibier. Donc, ça, c'est la modalité sur une zone de loup, par exemple, qu'on a maintenant en France, hein, sur une zone où c'est pas encore très peuplé. Et une modalité quand c'est vraiment très dense, qui a vraiment pas moyen de se creuser son petit bout de steak sur le territoire local, le loup, il part. Le jeune loup, il va partir et il marche. Et il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il peut faire des centaines de kilomètres. C'est comme ça, en fait, qu'ils sont arrivés d'Italie. C'est que, il y a une population assez active en Italie. Et du coup, le territoire, il était assez dense, assez saturé pour les meutes. Donc, il y a des jeunes loups qui sont partis et qui ont atterri, qui sont remontés vers la Suisse, qui sont remontés vers la France et qui commencent à arriver progressivement en France. C'est pas un seul loup qui est arrivé et qui a tout colonisé, hein. C'est plusieurs loups qui ont fait ce chemin, hein, parce qu'une meute, c'est un mâle et une femelle. Un loup tout seul, il va pas faire grand chose. Donc après, de proche en proche, une fois qu'on a commencé à avoir des meutes qui se sont installées en France, il y a des familles qui sont créées, il y a des jeunes qui sont nés, et ces jeunes, ils ont continué à s'aimer. Et c'est comme ça que maintenant, on a des loups qui arrivent jusqu'en Bretagne, parce que même si la population, là, elle commence à être bien stable, bien implantée dans les Alpes, les Alpes, elles doivent commencer à être un petit peu saturées géographiquement pour les loups. Donc forcément, ils commencent à s'aimer et partir un peu plus loin, et c'est comme ça qu'on a des loups qui finissent jusqu'en Bretagne, parce que c'est un marcheur infatigable, le loup. Vraiment, ils trottent, et ils peuvent trotter pendant des kilomètres et des kilomètres et des heures et des heures. C'est un marathonien. Le marathon, pour eux, c'est rien. Ils nous rigolent à la gueule, hein, nos marathons. Hein.
Vous l'avez dit tout à l'heure, un loup tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc, pour qu'on considère que le loup soit installé dans une région, il faut qu'il y ait un mâle, une femelle ou une meute, c'est ça ?
C'est ça. Alors, de toute façon, la structure d'une meute, c'est vraiment une famille. Donc, un mâle, une femelle et leurs enfants. Donc, la meute, la portée de l'année. Parce que souvent, comme les petits naissent au printemps et qu'on les voit pas trop les premiers mois parce qu'ils sont beaucoup cachés dans le terrier. Donc en général, on commence à percevoir les petits, ils sont déjà bien ados. Donc ce qui fait que quand on fait des observations, notamment par hélicoptère, parce que ça se fait pas mal, notamment aux États-Unis, surveiller un peu les meutes de loups comme ça, mais on les voit du ciel et on a l'impression de voir une troupe d'adultes, et c'est normal parce qu'en fait on les observe bien l'hiver notamment. Et l'hiver, ils sont déjà un peu grands, les petits de l'année quand même. Et ça peut être aussi les petits de l'année précédente, parce que tant qu'il y a à manger pour tout le monde, tant qu'il y a un équilibre dans la meute, tant qu'il n'y a pas trop de conflits, ils restent, il n'y a pas de raison de s'en aller. Donc c'est pour ça qu'un écologiste lumineux ne pourrait pas l'avoir fait, parce que ce n'est pas juste un ou deux loups qu'il fallait remettre en France. C'est plusieurs loups qui sont arrivés de façon récurrente. Et à ce jour, il y a probablement encore des loups qui arrivent d'Italie. Hein. D'ailleurs, on n'a pas forcément le suivi, on les surveille tous, pas tous un par un, hein, clairement. Donc, et puis bon, maintenant que la population elle est assez stable en France, elle a sa propre diversité génétique suffisante pour s'alimenter elle-même. J'essaie de retrouver dans ma thèse, ce qui me semble qu'il y a 10 ans, ils étaient 250, si je ne dis pas de bêtises. Donc la population a quand même bien grandi en 10 ans.
Une vraie belle évolution. D'ailleurs, je mettrai un lien en description de ce podcast, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez jeter un œil. Il y a une carte évolutive de la présence du loup depuis les années 90 et aussi quelques graphes assez intéressants. Et on voit que ça augmente de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle. En tout cas, quand on en parle, nous, mais pour certains éleveurs, ça peut être une mauvaise nouvelle. Et ça, ce sera le sujet de l'interview de la deuxième partie de cette émission. On en parle avec les membres de l'association Ferus, qui sont là pour accompagner notamment les éleveurs et se faire de la sensibilisation sur la présence du loup.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Maintenant qu'on a un petit peu fait la rencontre du loup, de l'animal et de comment il fait pour retrouver un petit peu un territoire, et maintenant on va parler de l'imaginaire, de la trace qu'il laisse dans nos têtes, dans nos histoires, dans notre culture, parce que même s'il a disparu pendant presque 100 ans, le loup, on le connaît très bien, parce qu'on a lu des fables de La Fontaine où il était le grand méchant loup, on a lu des contes, on a vu même des dessins animés où les personnages se retrouvent perdus en forêt, et là, il y a des yeux rouges qui arrivent et toute une meute dangereuse qui est là. Le loup est toujours dépeint comme un animal terrifiant qui fait peur. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que le loup a toujours été présenté comme l'ennemi, Élodie Serrano?
Ouh là là, c'est un vaste sujet, là. C'est vrai que le loup, c'est un animal qui est présent dans les mythes, dans les contes, depuis très 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 longtemps. On le trouve dans toutes les mythologies à travers le monde, hein, même si on remonte au niveau des déités. Enfin, on a une présence, on a une incarnation du loup dans la mythologie, dans les créatures mythologiques japonaises, par exemple. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes les mythologies d'Asie, du Sud-Est et d'Asie, mais je pense qu'on trouve des incarnations de loups un peu partout. On avait des incarnations de loups aussi dans les cultures des natifs américaines, des natifs américains. Ça s'explique assez simplement par un fait très simple, c'est que le loup, c'est un animal qui est assez simple, entre guillemets, en termes de niche écologique. Tant qu'il y a à manger, il est là. En tout cas, avant qu'on le chasse, tant qu'il y avait à manger, il était là. Ce qui fait qu'on retrouve des loups sur tout l'hémisphère nord, de très au sud, hein, parce qu'on parlait des loups rouges qui sont au niveau du Mexique, hein, quand même, et on remonte jusqu'en Sibérie. Donc il y a vraiment la zone d'existence du loup était très étendue, il y avait des loups partout, ce qui veut dire qu'on a les populations humaines qui ont été confrontées aux loups partout. Partout, il y a eu des populations humaines. Donc c'est un animal qui est présent dans beaucoup de mythologies. C'est un prédateur qui était soit une compétition pour les premiers chasseurs, soit un danger aussi potentiellement, hein. Quand on était un petit peu maigrichon, qu'on n'avait pas beaucoup d'armes pour s'en défendre, ça pouvait être clairement un danger, hein. Faut savoir que les loups, c'est comme toutes les espèces animales. Si vous tombez sur le terrier d'une femelle avec ses petits, il n'y a pas trop de discussion sur ce qui va se passer. Protection des petits, et l'homme, il fait au secours, je m'en vais en courant. Donc c'est une présence qui s'explique déjà par le fait qu'on est confronté au loup et qu'on a cohabité avec le loup partout. C'est un prédateur qui est assez volumineux pour qu'on le voit, parce qu'il y a d'autres animaux qui sont beaucoup plus discrets, donc forcément, avec lesquels on les croisait moins. Donc ça inspire moins de curiosité. Après, c'est vrai que en Europe, on a aussi l'influence de la religion qui est apparue, hein, clairement de la chrétienté. Le loup fait partie des différentes incarnation, présentation du diable, en fait. Pas du diable en lui-même, mais du malin, à l'opposition du divin. Donc le loup fait partie des incarnations dans la culture. Tu as parlé du chaperon rouge tout à l'heure. Alors, le loup, il représente le danger, il représente l'inconnu, il représente la nature qui était présentée comme un danger, un inconnu, la forêt. Et effectivement, bon, je veux bien entendre de voir des yeux qui brillent dans la nuit. Oui, ça peut être un petit peu effrayant et ça crée ça donne de quoi de créer des histoires et des histoires de choses qui sont cachées dans la nuit qui sont un petit peu effrayantes. Ça, c'est vraiment les premières histoires. C'était beaucoup, beaucoup ça. C'est aussi une incarnation. On en parle du chaperon rouge, hein, de la sexualité aussi. Hein, le loup, c'est vraiment, c'est beaucoup d'histoires aussi qui utilisent le loup comme une symbolique, en fait, de ça. Hein, le chaperon rouge, c'est pas un loup qui mange une petite fille innocente. On le sait, hein, que c'est pas un mythe aussi transparent que ça. Alors, les enfants connaissent ce niveau. C'est, ah, si tu vas dans la forêt, il y a un loup qui va manger. Nous, en tant qu'adultes, on sait que le conte, ça parle pas d'un animal et ça parle pas du fait d'être mangé.
J'avais jamais vu sur cette perception-là, mais maintenant, tout semble... Ouais, effectivement, les pièces du puzzle se mettent un petit peu en place. Le chaperon rouge, un loup dans une forêt, je suis en train de dézoomer et de le regarder avec un regard plus adulte, je n'y avais jamais pensé.
Oui, c'est complètement une mise en garde des jeunes filles contre les agresseurs sexuels, à vrai dire, et contre la sexualité, le danger des hommes que des loups à proprement parler. Là aussi, c'est très intéressant. Dans la mythologie, on trouve beaucoup le loup aussi comme une incarnation des bas instincts de l'homme. C'est-à-dire qu'on met ça sur le dos du loup. Et quand on regarde, en fait, souvent, le loup dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de mythes, ne se comportent pas comme des vrais loups, mais sont plus vraiment une incarnation de l'animalité humaine et des bas instincts humains. On a beaucoup essayé en tant qu'espèce humaine de se détacher du monde animal, en mode de nous on est humain, on n'a pas les instincts. Et donc du coup, bah, les histoires incarnent beaucoup bah, ce côté très animal, ce côté un peu instinctif de bah, c'est l'animal. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, notamment dans le mythe du loup-garou, que j'ai trouvé intéressant. J'ai lu beaucoup d'histoires de mythes de loup-garou où ces êtres humains qui se transforment en loups ont des instincts, une fois qu'ils sont transformés en loups, de violence, de sexualité, de beaucoup de choses qu'ils ne contrôlent pas parce qu'ils sont en loup. Et tous ces comportements-là, en fait, sont des comportements purement humains. Tuer juste pour le plaisir de tuer, ça n'a absolument rien à voir avec le comportement naturel du loup. Sauter sur tout ce qui bouge, ça n'a absolument rien à voir avec le comportement naturel du loup. En fait, le loup, il se reproduit à la saison des amours pour faire des petits, et le loup, il chasse pour manger, tuer pour tuer. Alors, il le fait dans les conflits. Le loup peut avoir des conflits, notamment avec les meutes voisines. C'est pour ça qu'ils essaient de s'éviter, hein, parce qu'ils savent que quand ils se bagarrent, ça peut mal se finir. Et puis, ils ont quelques espèces animales qu'ils croisent avec qui ils ne sont pas super copains. Et s'ils leur cherchent des poux, bah, des fois, ça se finit mal pour le chercheur de poux. Mais globalement, juste le plaisir de tuer, ça n'est pas un instinct de loup. Mais dans les histoires de loup-garou, c'est beaucoup incarné par cet humain qui était pourtant si civilisé. Quand il se transforme en loup, il se met à vouloir tuer tout le monde.
Ah oui, pourquoi ? C'est une vraie métaphore, effectivement, du loup qui est utilisé avec des comportements humains pour dénoncer, en fait, les comportements abusifs des hommes. Donc, c'est vraiment une image soit d'agresseur, soit de tueur, quelque chose de très sauvage et de très... et donc, la métaphore du loup, en fait, finalement, n'a rien à voir avec l'animal, n'a rien à voir avec la réalité zoologique de l'animal.
C'est ça, et c'est quelque chose qui est beaucoup effectivement ressorti moi dans les différents textes que j'ai lus. C'était vraiment les histoires où j'ai trouvé des loups les plus proches de la réalité de l'animal. Le loup était plutôt globalement plutôt pacifique, plutôt serein, plutôt philosophique de la vie. Par exemple, une des représentations avec lesquelles j'ai grandi, hein, c'est l'Assassin Royal de Robin Hood, avec un personnage, le loup, dont on a l'opportunité d'entendre sa voix tout au long de l'histoire, vu que le personnage principal a une magie qui lui permet de communiquer avec le loup. Et il l'exprime au cours du texte, quand le personnage principal se retrouve à tuer des gens parce qu'il a un rôle d'assassin. Le loup, il est non seulement il ne comprend pas, il est limite dégoûté par le fait que comment ça tu tues des gens pour ne pas les manger, c'est quoi ça, je ne comprends pas ce concept. Et le loup est toujours, moi je veux juste ma petite famille, je veux ma meute, protéger ma meute, et puis être tranquille, et dormir, et manger. Et quand on est sur des incarnations plus fidèles au loup, on n'est pas sur cette violence-là, on n'est pas sur cette agressivité-là. C'est pareil sur des ouvrages que j'ai pu lire qui présentaient des meutes de loups. Avec des histoires de « Ah, il faut que je devienne le chef de la meute, ah, ceci, ah, cela ». Alors, on a un très très gros souci dans la culture populaire d'une mauvaise représentation de la meute de loups. Alors, l'historique, il est assez simple et un petit peu déprimant, c'est-à-dire que les premières observations éthologiques de meute de loups, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens, j'imagine, pour aller observer les loups dans la nature, donc les premières observations de meute de loups étaient faites en captivité, avec des groupes de loups qui avaient été assemblés de façon un peu aléatoire par des êtres humains qui avaient mis ces loups en captivité. Et donc, les premières observations de la meute de loups, il y a l'alpha, il y a le bêta, il y a le gamma, tout ça, c'est valable sur un groupe de loups assemblés par les êtres humains de façon aléatoire. C'est quand on met plusieurs adultes loups dans un même endroit, à un moment donné, il y a une hiérarchie qui se crée. La réalité, ce que je disais plus tôt, J'ai mon petit loup personnel.
Il y a un loup personnel qui veut fuir.
Donc la réalité, c'est que en fait la meute de loup, c'est une famille, c'est un couple parental et c'est les petits de l'année des années précédentes. Quand il y a un des parents qui meurt, donc je parlais plutôt de diversité génétique, on a chez beaucoup d'espèces animales et ça inclut le loup, un tabou naturel de l'inceste. Pourquoi ? Parce que génétiquement, c'est une aberration de se reproduire avec les membres de sa famille. Donc la seule raison pour laquelle ça se reproduit, notamment chez nos animaux de compagnie, c'est parce que de toute façon, de façon mécanique, on va mettre à vivre ensemble un chat et une chatte qui sont frères et sœurs et vivre au quotidien ensemble. Mais dans la nature, s'ils étaient à l'extérieur, ils n'iraient pas chercher forcément à se reproduire ensemble. Donc le loup, naturellement, va avoir tendance à aller chercher des individus différents de lui. Donc si on a cette meute, cette structure familiale et il y a un des parents qui meurt, il n'y a pas un des petits qui va prendre sa place, en fait. Donc, du coup, tous les ouvrages où on raconte « Ah, je vais me battre avec le chef de la meute parce que je veux être le chef de la meute », c'est une aberration. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les histoires de loups-garous. Alors, à la limite, c'est un peu de cohérence parce que les meutes de loups-garous, c'est pas des meutes naturelles. Mais on parle beaucoup de « c'est l'alpha, c'est le bêta, je veux devenir le chef, c'est naturel de vouloir se battre pour être le chef ». En fait, ça n'est pas la réalité biologique du loup.
On avait d'ailleurs fait une chronique sur ce sujet du mythe du mâle alpha qui est faux, à retrouver dans une des émissions du Labo des Savoirs dont le titre va bientôt me revenir. Mais ce mythe d'ailleurs du mâle alpha, qui est donc complètement faux, puisqu'on l'a dit, une meute de loups c'est avant tout une famille, a essaimé dans la culture populaire, dans les livres de développement personnel, où il faut être le mâle alpha, être à la tête d'un groupe, le leadership, etc. Ça me permet de rebondir aussi sur le fantasme du loup, on l'a dit, donc comme un peu un ennemi. Il est aussi présent dans des histoires qui font peur. On pense par exemple à la bête du Gévaudan. Est-ce que ça permet de créer un peu une image d'ennemi et pour raconter une histoire intéressante? Enfin, la bête du Gévaudan, est-ce que c'est pas une création aussi pour se dire, bon, il y a un truc qui fait peur, c'est quand même bien plus intéressant à vivre au quotidien que mon quotidien de...
Alors, clairement, je pense que c'était une époque où on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Je pense que l'histoire du Gévaudan passionne encore les foules aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement c'était quoi la créature qui sensiblement tuait les gens. On s'inscrit dans un contexte où on chassait beaucoup le loup, donc et on présentait le loup comme un prédateur. Donc là, c'est un mythe très compliqué, je trouve, à voir de l'œuf ou de la boule de est-ce qu'il y a eu ces attaques random à une époque, et comme le loup était celui qu'on pointait comme le prédateur dangereux qu'il fallait abattre, c'est devenu une évidence que c'était un loup qui était en train de tuer tout le monde et puis ça a explosé hors de proportion. Est-ce que ça fait partie des mythes qui ont causé qu'on chasse encore plus le loup parce que il y avait des personnes qui avaient des intérêts aussi à détruire le loup, enfin, on rappelle qu'il y avait quand même des primes d'abattage des loups notamment à cette époque-là, donc ça il y avait un intérêt financier de... Est-ce que c'était juste un humain, un serial killer quelconque qui se déguisait un petit peu? Est-ce que c'était un ours? On ne sait pas trop. Et l'inconnu, ça crée des histoires. Il y a aussi, il faut se mettre à la place des habitants de l'époque où il y avait des bruits dans la forêt, il y avait des meurtres inexpliqués, il y avait le loup qui était déjà pointé comme un prédateur. Donc après, ça va vite aussi de... Il faut une explication, il faut un coupable. Il faut un coupable. Et donc, forcément, le prédateur, c'est un bon. Enfin, le loup, c'est un prédateur, c'est un bon coupable. C'est le coupable qui a été désigné pour plein de choses, même aujourd'hui. Des fois, c'est encore le coupable désigné à la place des chiens errants, par exemple. Donc, il a bon dos, le loup.
Voilà, c'est ce sur quoi j'allais rebondir. Là, le loup est de retour, notamment en Bretagne, mais il est de retour déjà depuis un moment partout en France. Et pour les éleveurs qui ont réussi à évoluer sans le loup pendant ces 100 dernières années, contrairement à nos voisins italiens, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, on en parlera avec l'association Férus, qui met en place plein de choses pour pouvoir aider ces éleveurs à protéger leurs bêtes, notamment sans forcément avoir à abattre des loups. On parlait de l'inconnu à l'instant. Est-ce que cette espèce de menace qui pèse sur les bêtes, ça fait peur et ça donne envie de surtout ne pas avoir affaire aux loups? Est-ce qu'il y a moyen de changer un peu cet imaginaire et de se dire qu'on peut vivre en bonne entente?
Alors, c'est toujours un sujet très compliqué. Parce qu'il n'y a pas que le loup qui entre en jeu dans cette affaire. C'est aussi un conflit humain. Les éleveurs dans les montagnes ont déjà de grosses difficultés financières. C'est un mode de vie, un mode d'élevage qui est quand même très très en difficulté du fait du capitalisme, de la modernité. Et aussi, on a une grosse opposition, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi des échanges avec les éleveurs ou quand on lit les commentaires. Il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays qui ont les mêmes problématiques. C'est pas une problématique que française, hein. Dans d'autres pays qui ont cette problématique de retour du loup, notamment dans les pays nordiques, il y a cette confrontation entre les éleveurs et le loup. Donc effectivement, il y a le fait que ça coûte des sous tout ça en fait, hein. Ça fait des années, des générations qui vivent sans le loup dans la montagne. Ça se passe bien et d'un coup il y a le loup qui revient et puis on leur dit vous allez faire avec. Et autant les éleveurs italiens, ça fait des générations qui vivent avec et ça fait partie de leur coût depuis des générations de faut surveiller le troupeau, faut les rentrer la nuit, faut un chien de berger, faut toutes ces mesures. Pour les éleveurs français, on les assomme juste avec tout ça en mode vous allez faire avec et vous allez rajouter ça, on vous donne un peu d'argent et puis vous débrouillez. C'est là qu'on rentre dans le conflit humain. C'est très symbolique dans l'esprit en fait des éleveurs et des habitants des zones rurales, des lubies, des écolo-bobos des grandes villes, et de la façon dont les grandes villes et les décideurs des grandes villes qui ne connaissent rien de leur quotidien viennent leur imposer des choses. Encore une fois, le loup à bon dos, c'est juste un truc, c'est juste une goutte d'eau en fait. Le mode de vie pastoral est très très menacé par beaucoup de choses. Très difficile. Et le loup, c'est vraiment une goutte d'eau là-dedans. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est la goutte d'eau qui attire leur attention. Parce que voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a cette idée qui continue à traîner de « Ah, c'est des écolo-bobos qui sont venus réintroduire le loup en France pour nous faire chier. » Parce que vraiment, il y a vraiment cette impression d'être écrasé par les citadins, d'être écrasé par les décideurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des blocages mentaux, parce que c'est même pas tant le loup que le problème, c'est le loup, il incarne la façon dont ils sont écrasés, dont on leur impose des choses alors qu'on n'a pas la moindre idée de leur quotidien. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Je pense que Ferus pourra encore plus en parler que moi parce qu'ils sont en contact quotidien avec tous les éleveurs et ils voient bien leur quotidien. Mais voilà, donc oui, le loup, il a bon dos. C'est pas leur seul problème et c'était peut-être juste le problème de trop pour eux, je pense, aussi.
Donc le problème est peut-être ailleurs. Merci beaucoup Élodie Serrano d'avoir répondu à nos questions sur le loup et sur l'imaginaire. Vous êtes également autrice de science-fiction, donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller regarder vos ouvrages pour se plonger, alors peut-être pas dans l'histoire du loup, mais dans d'autres histoires fantastiques.
Merci beaucoup. I'm going.
C'était You Better Call Me Wolf de Della Sevalli. Retour à l'interview.
Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
L'association Férus est une association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Née il y a plus de 20 ans, cette organisation s'est donnée pour mission de protéger aussi bien les loups que les ours ou encore les lynx partout en France. Et comme protéger ne veut pas dire séparer du reste du monde, les membres de l'association militent également pour la cohabitation entre prédateurs et éleveurs. Et pour parler concrètement de cette relation homme-loup, nous recevons sur le plateau du Labo des Savoirs deux membres de l'association Férus, Agathe Lefranc du réseau Finistère. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Et Tanguy Deschamps du réseau Bretagne. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et nous allons parler ensemble de l'initiative Pastora Loup. Mais avant, on a parlé Finistère et Bretagne. Est-ce qu'il y a des loups en Bretagne et dans le Finistère ? Agathe.
La réponse est oui. Depuis mai 2022, si on veut parler du retour, en tout cas c'est la date à laquelle il a été détecté, on va dire, pour la première fois depuis presque 100 ans pour la Bretagne. Du coup, par un gestionnaire d'espaces naturels qui suivait son milieu, son environnement, en posant des caméras automatiques et qui a eu la surprise un matin de découvrir en relevant ces images un loup, voilà. Donc l'info a été validée en mai 2022. Et depuis, oui, effectivement, le loup est présent de manière aléatoire un petit peu partout en Bretagne et de manière un peu moins discrète, on va dire, dans le Finistère.
Donc, il y a un loup, c'est sûr, on l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres ou on ne sait pas le nombre exact ?
Alors, pour la situation actuelle, en gros, génétiquement, l'Office français de la biodiversité, donc qui cherche un peu tous les indices qui permettraient justement de comptabiliser un peu le nombre d'animaux, on peut dire officiellement qu'il y a eu au moins deux loups à passer en Bretagne depuis cette date. Il y a un prélèvement de poils qui a donné un résultat, un loup d'origine germano-polonaise au passage, donc qui est voilà, un indice aussi relevé dans le Finistère. Et malheureusement, dans le Morbihan, c'est une carcasse de loup qui a été découverte. Donc un loup décédé et la génétique a parlé, c'était pas le même. Donc il y en a eu au moins deux à passer. Et plus récemment, le groupe Loup Bretagne, un regroupement d'assos naturalistes, a créé un outil en fait pour essayer de distinguer les loups observés, de voir justement un peu combien il y en avait, en se basant sur des critères morphologiques, sur les détails de couleurs, etc. Et eux, via cet outil, pensent avoir détecté entre 3 et 4 loups qui seraient passés en Bretagne depuis cette date de mai 2022. De là à savoir s'il n'y en a pas d'autres et si certains ne sont pas partis, ou s'il n'y en a pas un qui fait partie qui est le fameux loup mort. Après, on n'a pas plus de détails.
Oui, parce que c'est difficile en fait de repérer les loups, surtout que maintenant il y a la mode des chiens loups qui ressemblent aussi un petit peu à des loups. Est-ce que quand on n'a pas l'œil un petit peu travaillé, on peut ne pas reconnaître un loup ou ça, on peut le confondre avec un chien ?
Alors même quand on a l'œil travaillé, le vrai spécialiste du loup, les gens de terrain vous diront que ils ont parfois la modestie de dire qu'ils ne savent pas si c'est du loup sur une photo, sur une vidéo. Quand on regarde une image très figée d'un loup et d'un chien, on voit les différences morphologiques. Voilà, il y a deux races de chiens, chien loup tchèque et chien loup sarlos, qui datent du XXe siècle, qui sont des races récentes, qui ont été créées pour ressembler au loup justement, qui sont vraiment très très semblables. Quand on a les deux images l'une en face de l'autre, on peut faire les différences. Sur un animal qui est en train de s'enfuir à 200 mètres de dos et qu'on voit pendant 4 secondes, même un spécialiste, s'il est sérieux, vous dira « je suis pas sûr de ce que j'ai vu ». Voilà. Donc la plupart des gens qui ne savent pas faire la différence peuvent évidemment se tromper. Et les spécialistes, parfois, même sur certaines images ou vidéos, vous diront « là, je sais pas ».
Alors il y a aussi les observations de loups bien sûr, mais aussi les observations de prédation qu'on peut possiblement attribuer aux loups. Là encore on reste très prudent. Entre le 11 octobre 2022 et le 21 octobre 2024, on a recensé 64 prédations possiblement attribuées aux loups. 124 bovins ou caprins
ovins.
124 ovins touchés.
Caprins, et voilà.
Est-ce que ça peut participer à une montée d'inquiétude de voir juste, pas forcément le loup, mais les prédations et les conséquences de la présence peut-être éventuelle du loup ?
Oui, c'est légitime. Sur les chiffres du Finistère que vous avez cités, effectivement, donc c'est 124 ovins prédatés et 7 bovins, assez récemment. Ce sont donc ce qui est analysé par l'OFB quand ils arrivent et qu'ils font un constat sur une prédation. Donc loup non exclu, ça veut dire que c'est sans doute du loup, mais on n'est pas complètement sûr. Donc le bénéfice du doute pour rembourser la bête à l'éleveur bénéficie à l'éleveur. Donc dans ce cas-là, ça lui est remboursé. Dans le même temps, il y a d'autres constats qui sont marqués loup exclu ou dans des cas où on ne peut pas analyser non plus les dépouilles. Il y en a à peu près autant. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que quand le loup arrive, il va prédater essentiellement de la vie sauvage. Quand c'est plus facile, quand il est tout seul, quand il a du mal à chasser, effectivement, il se rabat aussi sur les moutons essentiellement, un petit peu les bovins. Et évidemment, ça inquiète les éleveurs, c'est légitime, ouais.
Vous avez parlé de l'OFB, donc quand il y a un animal blessé qui est retrouvé, c'est pas gratuit, on dit pas juste « Ah, c'est le loup », il y a un professionnel qui se rend sur place, qui analyse et qui essaie de savoir du coup ce que vous avez raconté, si c'est loup exclu ou non. Mmh. Il y a plusieurs initiatives bénévoles qui sont portées par l'association Férus. Alors moi, il y en a une que je trouve super en termes de nom, c'est Happy Ours, qui fait le lien entre abeille et ours dans les Pyrénées. Il y a aussi Parole de Patou ou encore la formation Grand Prédateur. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'initiative Pastoral Loup, qui existe depuis plus de 25 ans. Alors déjà, en quoi consiste ce programme ?
Alors c'est un programme qui a justement pour but de donner un coup de main aux éleveurs qui sont prêts à cohabiter en fait avec le loup, qui reconnaissent au loup le droit d'exister. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément ravis de sa présence, mais ils partent de cette démarche où ils acceptent et puis il faut apprendre à faire avec. Et du coup, ces éleveurs en fait contactent Férus et vont mettre en place, on va mettre en place une convention avec eux pour envoyer des éco-volontaires qui vont pouvoir assister les bergers, et non pas remplacer les bergers, pour surveiller les troupeaux, voire pour filer un petit coup de main à l'installation des clôtures, et assurer, des fois, permettre aux bergers de pouvoir dormir, de pouvoir partir se ravitailler sans craindre de quitter son troupeau pendant quelques heures ou pendant une nuit. En espérant contribuer à l'acceptation en facilitant un peu le boulot des premiers impactés par ce retour.
Donc c'est ne pas laisser l'éleveur ou l'éleveuse seule face au loup et avoir des éco-bénévoles qui sont là pour l'aider, que ce soit dans l'installation concrète de clôture ou juste dans la surveillance du troupeau.
C'est ça. En fait, Férus reconnaît parfaitement que le loup est compliqué pour le monde de l'élevage. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On est ravis que le loup soit là, mais tout le monde n'est pas enchanté de ce retour et ça a créé un réel changement dans la manière d'élever des animaux domestiques. Et du coup, quelque part, c'est un peu le coup de main de la société civile aux éleveurs. Si nous, on est pro-loup, il faut bien mettre un peu la main à la pâte pour aider ceux pour qui ce retour est un peu compliqué. Donc concrètement, les bénévoles sont envoyés auprès des éleveurs. Alors en fonction, il y a différentes variantes, en fonction du programme alpin. Il y a aussi des actions qui se font dans le Jura depuis 2 ans. Et donc cette année, on va développer ça en Bretagne et potentiellement dans d'autres régions de France. Donc les conditions peuvent varier un peu d'une région à l'autre puisque les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en fonction des circonstances, les bénévoles peuvent être envoyés seuls ou en binôme auprès des éleveurs, des bergers pour aider notamment à la surveillance des troupeaux.
Oui, puisque l'initiative Pastoral Loup existe depuis 1999, mais elle était jusque-là centrée sur des régions notamment alpines, où la présence du loup était avérée. Jusqu'en 2022, jusqu'à cette année-là, c'était dans les régions alpines, et maintenant, ça commence à essaimer un petit peu partout en France. Est-ce que vous, à l'antenne bretonne, vous avez dû vous former à Pastoral Loup un petit peu dans la précipitation ?
Alors, dans la précipitation, non, parce qu'on est nombreux à avoir fait des missions de terrain, en fait, dans les Alpes depuis très longtemps, notamment. Le programme existe depuis 25 ans dans les Alpes. Donc, dans les Alpes, effectivement, c'est un mode de gardiennage bien particulier, des grands espaces ouverts, où c'est assez facile, entre guillemets, pas en termes d'efficacité, mais en termes de mise en place, c'est assez facile de partir sur le triptyque de protection berger, parce que là-bas, il y a beaucoup de bergers, présence des chiens de protection et filet, regroupement nocturne du troupeau. C'est quelque chose qui change beaucoup dès qu'on se rapproche des plaines. Donc le programme a été mis en place dans le Jura, qui n'est pas tout à fait une plaine, mais pas loin de zone de plaine quand même, il y a 2 ans, avec des méthodes de gardiennage différentes. On le met en place en Bretagne aussi, on va s'adapter, ça ne va pas du tout être les mêmes conditions qu'évidemment les Alpes. Il y a déjà quasiment pas de bergers en Bretagne, ce sont des éleveurs qui font le travail, les troupeaux sont pas gardés ou très peu, un petit peu de présence de chiens de protection mais pas encore beaucoup, donc le travail va être différent, on va se centrer sur des missions courtes plutôt pour soutenir les éleveurs en cas d'attaque ou en cas de prévention d'attaque. Dans les Alpes, on arrive par le biais de d'un relais entre bénévoles à couvrir entre guillemets les arrières d'un éleveur parfois pendant 2 mois, 3 mois, les bénévoles se relaient et garantissent quasiment une zéro attaque sur tout un troupeau pendant des semaines et des semaines. Tant que le bénévole est là, le loup, ça lui plaît pas la présence humaine de toute façon, donc il va voir ailleurs, hein, tout simplement, des troupeaux qui sont moins bien gardés. En Bretagne, on sera plutôt en réaction, c'est-à-dire un éleveur qui va se faire attaquer, qui a perdu une bête, on va essayer d'intervenir très vite avec des bénévoles locaux qui interviendront au plus vite en binôme et qui pourront passer 3, 4, 5 jours ou plus à sa place pour surveiller le troupeau la nuit. Ça lui permettra d'éviter d'avoir de la surprédation, ça lui permettra de pas être seul surtout, parce que les éleveurs sont très seuls quand ça arrive. Et il y a évidemment de l'inquiétude. Avec ces moyens mis en place, en fait, Pastora Loup et Ferrus, nous on essaie de soutenir les éleveurs qui veulent aller vers la cohabitation. Voilà. Pour ce qui est des éleveurs ovins, ce n'est pas le cas des bovins, l'État met quand même beaucoup d'argent sur la table pour les aider à avoir des mesures de protection. On a un problème avec l'élevage bovin qui est assez peu aidé à ce niveau-là, et en Bretagne, évidemment, c'est important.
Pourquoi est-ce que l'élevage bovin est moins bien aidé? Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas encore?
Je pense qu'il faudrait demander à l'État pour ça. L'État a décidé il y a quelques années que l'élevage bovin était en non protégeable, ce qui est un petit peu idiot. Ça veut surtout dire qu'il n'a pas cherché des moyens de protection. Je pense que la vraie raison, c'est que il a peur d'aller vers une indemnisation équivalente aux moutons. Les bovins, il y en a partout en France et ça leur coûterait entre guillemets bien plus cher. Donc pour l'instant, pour les élevages bovins, les prédations sont remboursées, mais pas les moyens de protection, ce qui est un peu dommage.
Alors que pour les autres élevages, les moyens de protection sont remboursés,
oui,
il y a de l'aide.
En grande partie, en fonction de l'endroit où vous habitez par rapport aux zones de prédation du loup, il y a différents cercles qui sont déterminés et en gros ça va jusqu'à 80% du financement d'un berger, d'un emploi de berger, 80% des chiens de protection, 80% des achats de clôture. Donc on va dire que dans les Alpes et sur l'élevage ovin en général, l'État français fait quand même beaucoup, y compris beaucoup plus que les autres États européens autour. Sur l'élevage bovin, malheureusement, il n'y a pas grand-chose mise en place pour l'instant. Il y a des essais qui sont mis en place pour trouver des moyens de protection. On sait qu'il y en a qui existent, il faut encore chercher. Mais nous, on est là pour faire un petit peu le relais et soutenir ceux qui veulent quand même essayer de se protéger plutôt que bêtement tirer sur le loup.
On l'a dit, l'initiative en Bretagne est récente encore, elle est en cours de construction puisque la présence du loup est récente elle-même. Il y a eu un appel il y a pas longtemps en Ardèche pour 3 week-ends de travaux manuels pour Pastora Loup. Donc c'est en Ardèche, hein, pas en Bretagne, mais c'est déjà complet, les bénévoles ont répondu vraiment présents. Comment vous expliquez que des éco-bénévoles, justement, parce que c'est ça le terme, répondent présents alors que c'est des tâches physiques, généralement en extérieur, enfin sur le papier, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être séduisant, on va dire.
Oui, je pense que si, ça séduit beaucoup de gens qui vivent en ville essentiellement. La France maintenant est peu rurale, essentiellement citadine, et beaucoup de gens qui veulent mettre la main à la pâte, beaucoup de gens qui vont parfois en montagne se balader, mais qui n'y font que se balader, et qui voient la montagne comme une zone de vacances et pas grand-chose d'autre. Et à un moment, quand on veut mettre la main à la pâte et aider vraiment efficacement et faire quelque chose pour les éleveurs, qui sont les seuls en fait à pâtir un peu du retour du loup, il faut s'y mettre, relever ses manches, et on a des tas de jeunes, pas que des jeunes, des anciens, des retraités, des gens de tous les âges qui se mettent à ces chantiers-là. C'est des chantiers assez courts, hein. En général c'est une semaine, encadré par un professionnel de Ferrus, et c'est pas très très compliqué à faire, et surtout on a le plaisir de faire quelque chose de concret, assez rapidement pour un éleveur, en gros essentiellement des mises en place de clôture, effectivement. Et effectivement, ces chantiers, on en fait quelques-uns par an, ils se remplissent très vite, donc on n'a pas ce projet-là encore en Bretagne, on n'en a pas encore les moyens, mais dans les Alpes ça tourne depuis pas mal d'années, dans le Jura aussi.
Est-ce que vous avez déjà des bénévoles en Bretagne, des éco-bénévoles ?
On a déjà des éco-bénévoles qui se sont préinscrits pour le stage, effectivement, qu'on va mettre en place pour former Pastora Loup. Voilà, pour l'instant, c'est surtout de l'information publique qu'on fait depuis 2 ans. Et la première action de terrain, entre guillemets, d'envergure, ça va être Pastora Loup, effectivement, à partir du printemps prochain.
On a parlé de ces éleveurs et on a parlé aussi des éleveurs qui sont d'accord pour cohabiter avec le loup et qui font appel à vous. Mais en général, les éleveurs en France, la relation avec le loup, elle est comment? Est-ce que c'est plutôt une crainte, un combat, ou est-ce que c'est un état de fait, le loup est là et il faut apprendre à vivre avec?
Alors en moyenne, c'est compliqué. Ça dépend un peu des régions de France, tout simplement, parce que le timing n'est pas le même partout. Dans les Alpes, ça fait 30 ans que le loup est de retour. Donc même si ça ne veut pas dire que les éleveurs sont gravis de ce constat. Mais en tout cas, bah, ils se sont bien rendus compte qu'il fallait faire avec. Ou en tout cas, beaucoup d'entre eux, bah, voilà, ont pris le loup comme une part de leur environnement et des aléas qui peuvent leur arriver et leur poser des soucis. Dans les régions où le loup est en train de coloniser, en fait, la zone, c'est un peu plus compliqué. Pour parler de notre cas, nous, voilà, sur le Grand Ouest, je pense que même si les biologistes, on va dire, s'attendaient à ce retour, hein, qui est complètement logique au vu de la manière dont s'étend cette population, c'est vrai que c'est arrivé assez brutalement d'un point de vue éleveur. Ils s'attendaient à avoir encore quelques années tranquilles, je pense, et j'imagine que c'est un peu ce scénario-là dans pas mal de régions de France où, voilà, on savait que ça allait arriver, mais globalement, les gens sont pas prêts, et du coup, le retour est vécu assez violemment pour beaucoup d'éleveurs. Après, il y a différentes sensibilités parmi les éleveurs. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui s'opposent farouchement à ce retour, qui, voilà, annoncent que le loup n'a pas sa place et qui aimeraient, ben voilà, qu'il n'y en ait plus, hein, qu'on recommence le travail effectué au siècle dernier. Et d'autres, ben, qui subissent un peu, mais voilà, qui plus vite comprennent qu'il faudra accorder une place aux prédateurs.
Donc ça reste une surprise dans l'ensemble, parce que ce n'était pas censé arriver si vite, on va dire, mais il y a peut-être plus d'acceptation.
On a la chance d'avoir le recul par rapport aux Alpes, où c'est arrivé plus tôt, où c'était vraiment, voilà, un retour en France, même au niveau de l'État, il n'y avait rien qui était fait. Nous, on a la chance d'avoir le recul de ce qui a été fait l'agriculture dans les Alpes, avec toutes les différences dont Tanguy vous parlait. On n'est pas du tout sur le même milieu, on n'est pas du tout sur le même type d'élevage. Néanmoins, il y a quelques indices sur ce qui pourrait marcher en termes de protection. En revanche, ouais, l'acceptation, une partie des gens avait conscience de ce retour, de cette arrivée probable, possible, on ne savait pas dans quel délai. Malgré tout, on aurait pu, si on avait regardé de plus près, je pense que dans l'ensemble, la population aurait pu se préparer un petit peu mieux, puisque c'est ce qui est une surprise, en fait, n'aurait pas dû l'être.
D'où l'importance de communiquer sur ces sujets, et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire juste après cette interview, puisque vous allez filer à Port-Saint-Père, qui est donc pas loin de Nantes, pour une réunion publique, une conférence publique, et les inscriptions ont eu un franc succès, puisqu'on est à peu près plus de 80 personnes pour l'instant, donc peut-être 150 personnes au final dans la salle. Est-ce que vous avez l'habitude de ce succès quand vous vous déplacez sur le territoire pour parler de ces sujets? Est-ce que vous voyez un réel intérêt chez le public?
Oui, il y a une grosse curiosité. Le loup, c'est un animal mythique qui a toujours intéressé tout le monde dans sa vie, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Il y a un moment, on a entendu parler du loup, enfin voilà. C'était quelque chose de absolument pas concret pour tous les gens de l'ouest de la France, on va dire. Beaucoup plus concret, effectivement, pour ceux du sud-est. Donc les gens ont envie d'en savoir plus. Ils se rendent pas toujours compte que la progression de l'espèce a été un petit peu globale en France, même si, pour l'instant, faut bien dire que dans les régions de l'ouest de la France, on a quelques individus par-ci par-là. Là, en Bretagne, on est à 3, 4, 5 peut-être, mais pas plus. On n'en sait pas trop grand-chose. Sur la région des Pays de la Loire, par exemple, il n'y a pas vraiment de traces. Il n'y a pas eu de traces certifiées, en tout cas. On sait qu'il y a sans doute des passages, mais pas beaucoup plus. Très peu de femelles observées, quasiment pas d'installation de meute, etc. Donc c'est des choses qui arriveront dans la moitié ouest de la France, mais plus lentement. Et puis globalement, il y aura moins de loups dans l'ouest de la France que dans l'est, parce qu'il y a moins de zones de tranquillité, tout simplement. Donc les gens sont un petit peu au courant de ça, mais pas beaucoup. Certains découvrent même que le loup parfois est revenu en France, parce que pour eux c'était très éloigné. Donc on a des gens très surpris. Et chez les éleveurs, parce qu'on essaie beaucoup dans notre public d'aller aussi dans les lices agricoles, des choses comme ça, les gens sont curieux. Ceux qui sont concernés, évidemment, s'inquiètent. Il n'y a pas de haine systématique de l'animal en général, à part quelques individus qui, pour des raisons politiques, sont très opposés au loup, mais c'est vraiment pas du tout la majorité. Les gens sont globalement curieux, un peu inquiets pour les éleveurs, c'est légitime, mais par contre, il y a beaucoup de curiosité dans le public, ouais.
Vous avez parlé de l'installation de femelles qui pour l'instant n'est pas du tout avérée, puisque le loup fonctionne ainsi. C'est d'abord les mâles qui partent, on va dire, en observation dans le territoire, et c'est a priori des mâles qu'on croise en Bretagne, dans le Finistère ou peut-être en Loire-Atlantique. Mais tant qu'il n'y a pas de femelles, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de meute, il n'y a pas d'installation concrète sur le territoire. Donc finalement, là, on est encore très tôt dans l'installation du loup dans l'Ouest.
Bon, oui, quand bien même une femelle arrive, c'est pas pour ça qu'il va y avoir reproduction. Quand bien même il y a reproduction, c'est pas pour ça qu'il y a installation durable. Je vous cite juste un exemple. La première meute qui s'est reproduite en dehors des Alpes, c'était en 2013, à peu près 20 ans après l'arrivée du loup, 25 ans après l'arrivée du loup en France. Une reproduction donc dans les Vosges, plus rien depuis. Donc c'est pas forcément parce que les Vosges, a priori, c'est un massif intéressant pour s'installer pour le loup. Il y a eu une reproduction, rien depuis 10 ans. Donc il peut y avoir une reproduction, mais ça veut pas dire installation pérenne et durable. En fait, le loup a besoin de zones de tranquillité, et les zones de tranquillité, en dehors des massifs alpins, il y en a pas tant que ça en France. Voilà.
Donc finalement, là, les mesures de protection qui sont mises en place, c'est vraiment presque précoce. C'est pour éviter...
Non, c'est pas précoce parce que les loups qui sont seuls, les dispersants, sont des jeunes qui cherchent un territoire, ont une difficulté de s'installer, une difficulté de vivre aussi. C'est-à-dire que le loup est très efficace en chasse, en meute, quand il vit dans sa meute, qui est un fonctionnement très territorial, qui connaît très bien le territoire où il habite. La meute connaît parfaitement les emplacements des animaux sauvages et va les prédater très facilement, et parfois se rabattre sur le domestique. Un loup seul est moins bien équipé entre guillemets pour la chasse, il va chasser ce qu'il peut. Donc beaucoup de petites proies et parfois plus de moutons que la moyenne parce que c'est plus facile à attraper tout simplement. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'installation de meutes et de loups en quantité que c'est pas un problème pour les éleveurs. Voilà. Ça leur permet aussi de se protéger aussi des autres soucis qu'ils avaient avant, à savoir les chiens errants. Il y en a toujours eu, il y a toujours eu des dégâts. Quand vous en parlez aux éleveurs, tous ont eu des problèmes avec des chiens errants un jour dans leur vie. Et avoir un ou deux chiens de protection, ça protège aussi de ça de toute manière, même s'il n'y a pas de loup.
Et comme on l'a déjà précisé, en fait, les éleveurs de chez nous ne sont pas tout à fait prêts. Du coup, c'est vrai que les quelques individus qui passent par là peuvent faire des dégâts assez conséquents. Hein. Si on regarde les constats qui ont pu être relevés jusqu'à maintenant, c'est pas rien. Hein. D'autant que c'est très localisé, donc c'est sur un secteur globalement assez réduit. Du coup, c'est un impact assez fort, finalement, là où ça arrive. Et du coup, le fait d'être effectivement peut-être un peu plus tôt que dans d'autres régions... Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est maintenant, en fait, qu'il faut donner un coup de main. Maintenant que les gens ne sont pas prêts, c'est là que... Il y en aura peut-être toujours besoin, mais en tout cas, ça a tout son sens d'être déjà aux côtés des éleveurs, en fait.
La fameuse maxime « prévenir plutôt que guérir voilà. », sachant que là, on est déjà un petit peu dans la guérison pour certains éleveurs. Et on ne peut pas parler du loup sans parler de la politique qui le concerne. Aujourd'hui, en France, il est possible de faire des prélèvements de loups, comprenez tuer des individus chaque année. Le quota actuel d'abattage est de 19% de la population recensée par an. Le 30 septembre 2024, on comptait 164 loups abattus. Alors, je vous pose la question en ayant déjà un petit peu une idée de votre réponse, et c'est bien normal. Est-ce que c'est un moyen viable, durable, pour protéger les éleveurs et les éleveuses de leurs troupeaux d'abattre des loups?
Alors, on pense que c'est un gros problème. On n'est pas complètement le tir de défense. On peut comprendre qu'un éleveur qui met en place des moyens de protection, qui continue d'avoir beaucoup de prédation, ait accès à un tir de défense, qui est quelque chose d'autorisé. Hein. Il y a une limite que l'État s'est fixée, qui est à en gros 20% de la population, ce que nous, on trouve que c'est quand même beaucoup. Tuer 200 loups, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on tue 200 loups en France sur une population de 1000, c'est quand même énorme. Le gros problème, surtout de tuer les loups, c'est qu'en fait, ça fait un vide à un moment donné, si vous avez une meute qui est constituée, évidemment, pendant quelques semaines, vous allez avoir moins de prédation si vous tuez 3 loups. Par contre, la nature a horreur du vide, donc une autre meute va arriver dans les années après, il faudra tout recommencer, donc ça ne résout rien sur la durée. Les animaux qui sont issus de la meute peuvent, du coup, les survivants, partir en dispersion un peu partout, donc certes, à l'endroit où vous avez tué un loup, vous avez moins de prédation pendant 3 semaines, par contre, vous avez un peu le bazar, si je puis dire, tout autour, donc ça aide pas les voisins, et surtout, en autorisant les tirs de loups, l'État favorise l'idée que c'est la seule solution. Or, la seule solution pour nous durable, c'est quand même plutôt de se protéger et mettre en place des mesures de protection. Ce qui n'empêchera pas des tirs de loups de temps en temps, c'est pas forcément ça le problème. Mais là, actuellement, en France, c'est n'importe quoi en termes de chiffres.
Et on peut rajouter à ça, en fait, que ce fameux chiffre de 19% et ce nombre de loups à abattre est censé être un plafond. Et qu'aujourd'hui, il est utilisé... On a plutôt la sensation qu'il est utilisé comme un quota, c'est-à-dire que chaque année, l'ensemble des loups autorisés à l'abattage sont abattus. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on reproche dans la manière de gérer cette problématique. Et puis plein de petits détails qui vont avec. Normalement, quand un tir de loup est autorisé par le préfet, ça veut dire que toutes les mesures autres ont été mises en œuvre pour essayer d'éviter les prédations, c'est-à-dire mettre en place de la protection. Et en général, malheureusement... on constate que c'est loin d'être toujours le cas. Et enfin, dernière chose, on constate aujourd'hui des tirs acceptés dans des zones dans des départements où il y a un seul loup. Quoi. Et là, quand on est censé favoriser le retour d'une espèce, je vois pas comment c'est possible si on tue le seul loup du secteur. Quoi.
Et là, on parle en plus de prélèvements, on va dire, encadrés par la loi. Il y a aussi, j'imagine, des cas de braconnage.
Bien sûr, ouais. Depuis quelques années, on a en moyenne, on va dire, une dizaine de cas de braconnage qui sont relevés en France. On sait très bien que les cas de braconnage relevés sont la partie émergée de l'iceberg. La plupart des cas braconnés ne sont pas retrouvés. Un braconnier qui est pas trop bête, a priori, il arrive à planquer sa dépouille. Donc quand on retrouve 10 cas braconnés par an, on sait que c'est au minimum 10 fois plus. Donc ça fait un paquet de lois battues illégalement. Mais quelque part, c'est un peu encouragé par l'État qui utilise à fond sa cartouche, si je puis dire, de tir de défense autorisée. Ça fait beaucoup de lois battues, tout ça, par an. Et surtout, ça n'aide pas à l'arrivée des éleveurs. On dit qu'on aide les éleveurs. Je pense qu'on les enfonce de plus en plus en n'utilisant que le tir comme moyen de protection.
Est-ce qu'on peut dire que le loup en France, et c'est la dernière question, est encore une espèce en danger ?
Ah, pour l'instant, oui, bien sûr. Elle est de retour en France depuis 30 ans. On a mis 1000 ans à exterminer le loup en France et dans une partie des pays européens. Il y a avec l'Italie et l'Espagne qui en avaient gardé un peu. On a mis 1000 ans à le faire avec des moyens anciens. Aujourd'hui, avec des moyens modernes, poison, fusil, ce que vous voulez. Si on décidait d'exterminer le loup en 30 ans, ça pourrait être fait, hein. Il faudrait pas 1000 ans à nouveau pour le faire. Comme Agathe le disait, c'est ce qui se passe actuellement dans certains départements où il y a, comme le Lot l'année dernière, où il y a un loup qui apparaît au bout de quelques semaines et un peu de prédation, alors qu'il n'y a aucun moyen de protection qui est mis en place. Tout d'un coup, on l'abat. Donc on réextermine une nouvelle fois cet animal à un niveau local. Et les textes que la France a signés en termes de protection de la biodiversité et compagnie l'engagent normalement à préserver et à permettre au loup de s'installer dans tous les endroits où il peut s'installer, pas sur un plan uniquement national, mais dans tous les endroits au niveau local aussi. Donc on ne peut pas tuer un loup quand il n'y en a qu'un seul dans une région, c'est ridicule. Et donc oui, bien sûr, il est encore en danger. Et la politique actuellement, qu'elle soit européenne ou française, malheureusement, on n'est pas super optimiste à court terme en tout cas.
Et les scientifiques ont préconisé un chiffre de... Alors, il y a le fameux chiffre de 1000 loups pour qu'une population soit viable, en fait, qui a été avancé par les scientifiques. Sauf que la compréhension politique, volontairement ou non, on va dire que ça a été un petit peu interprété de travers. Aujourd'hui, on sent bien une volonté de l'État de pas trop dépasser ce chiffre. Et alors qu'en réalité, si on suit un petit peu l'étude, c'est 1000 loups en âge de procréer et en capacité de procréer. Donc en fait, ça signifie 500 meutes. On est loin d'avoir le compte actuellement.
Oui, parce qu'en France, il y en a à peu près 1000, hein, c'est ça ?
À peu près, oui. Aujourd'hui, entre les loups qui vont mourir naturellement, parce que tous les louveteaux n'arrivent pas adultes, évidemment, entre les loups qui sont prélevés, entre les loups qui sont abattus illégalement, braconnés, on sait qu'aujourd'hui, un loup vivant le 1er janvier d'une année quelconque a une chance sur deux d'être mort au 31 décembre de la même année. Ça fait pas terrible en termes de protection de la biodiversité, quoi. Voilà. Un loup vit entre 6 et 7 ans dans la nature, on va dire. Parfois un peu plus.
Oui, donc on est vraiment sur une population en danger qui a besoin d'être protégée et où les éleveurs aussi ont besoin d'être sensibilisés à toutes ces questions, tout en étant protégés aussi, eux, de leur côté, pour leurs troupeaux.
Tout à fait.
Je rappelle qu'un stage de formation sera organisé le week-end des 8 et 9 mars 2025 afin de former les 30 futurs et premiers éco-bénévoles de Pastoral Loup Bretagne.
Pour la région donc des Monts d'Arrée, tout ça, ça va se jouer dans les Monts d'Arrée.
Parce que c'est là où la présence du loup a été...
Actuellement, c'est là où elle est avérée, c'est là où il y a de la prédation autour des Monts d'Arrée.
Mais vous prenez des stagiaires que des Monts d'Arrée ou de partout en France ?
On prendra des gens disponibles qui pourront intervenir rapidement, sur place évidemment dans les Monts d'Arrée, et qui seront capables de se déplacer rapidement, qui ont des disponibilités de temps à donner.
Est-ce qu'il s'agirait surtout de courtes missions de surveillance ?
Oui.
Donc plutôt des troupeaux ovins, bovins, et pour soutenir du coup les éleveurs en difficulté, comme on l'a
tout
dit.
Tout à fait. C'est des missions assez simples, hein, c'est juste se poser là, puis marquer la présence humaine. Le loup, ça lui plaît pas, il va voir ailleurs. Mais il faut être présent, et là on va faire des binômes, parce que ça sera plus sympa pour les gens en question. Et plusieurs jours, le temps que les gens peuvent donner, le plus vite possible, surtout après une prédation, ou pour prévenir une prédation, un éleveur qui serait inquiet parce qu'il a trois voisins qui se font attaquer, on peut peut-être lui mettre un ou deux bénévoles pour le rassurer quelques nuits, et puis c'est déjà ça.
Eh bien écoutez, ce message j'espère sera entendu par les bénévoles dans les coins des Monts d'Arrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'antenne bretonne de Férus pour plus d'informations. Je mettrai vos contacts, bien sûr, sur notre site internet du Labo des Savoirs et dans la description du podcast. Merci beaucoup à Agathe Lefranc du réseau Finistère et à Tanguy Descamps du réseau Bretagne d'être venu répondre à nos questions. Merci à Elodie Serrano, Agathe Lefranc et Tanguy Descamps d'avoir répondu à mes questions. Toutes les ressources utilisées pour préparer cette émission sont, bien sûr, en description du podcast.
Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodessavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Just wanna tell you 101.5 FM.